Voulez, ce qui est propre au psaume anglican, c'est que justement, mettent en relief le texte, la musique, hein, met en relief. Alors, on va écouter à la fin. C'est assez fort, oui. C'est assez fort, bon. Parce que moi, mais vous avez vu, par exemple, les voix d'enfants n'interviennent pas n'importe quand, et on va essayer de le réécouter une fois qu'on l'aura entendu. Et je vous fais un appel du pied. Si vous-même, vous avez des enregistrements de psaumes, n'hésitez pas à me les faire connaître de façon même moderne, hein, parce que moi, il y a des choses très modernes que je ne connais pas forcément, mais qui m'intéresseraient. Voilà, donc on va attaquer le psaume 8, mais... Avant de commencer le psaume 8, je vais vous donner une fiche qui est ma boîte à outils. Je vais vous donner ma boîte à outils sous la forme d'une fiche que vous allez découvrir. Et on ne va pas tout faire aujourd'hui parce que ce serait fastidieux de faire un cours de méthode en entier. Je le fais de temps en temps quand c'est dans un séminaire. Bon. Mais pour un cours, il vaut mieux vous donner ça à dose homéopathique. Alors, vous allez avoir une fiche qui est un Donc, vous avez le texte complet de ce que je vais faire maintenant. On va en faire une demi-heure à peu près, hein, pour vous initier un petit peu à la caisse à outils pour l'étude des psaumes. Donc, vous relirez cette feuille tranquillement pour voir un petit peu comment fonctionne cette méthode. Alors, les psaumes étant des poèmes, il faut les lire comme des poèmes. Vous ne lisez pas votre feuille d'impôt comme vous lisez votre un poème ou une lettre très stylée que vous avez sous les yeux. Hein. Donc il y a une façon de lire qui est propre au texte poétique. Et très souvent, les gens abordent les psaumes sans cet arrière-fond poétique et évidemment se posent des questions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Bon, en fin de compte, la poétique a obéi à des règles dans toutes les cultures et on va essayer de, en quelques mots, enfin en quelques pages, de vous sensibiliser à ce problème de la poétique hébraïque. Il y a eu beaucoup de travaux de fait sur les récits. Je pense que si vous suivez des cours dans cette maison, vous avez entendu pas mal de professeurs vous parler de l'analyse narrative ou des récits. Il est clair que ça ne marche pas pour les psaumes. Les psaumes sont avant tout des poèmes. Alors comment on aborde un poème ? Première chose à faire, je vous la conseille toujours dans l'étude des psaumes, même quand ce ne sera plus marqué, mais c'est de faire une dégustation du texte avant de l'étudier. On goûte d'abord, alors soit en écoutant le texte, soit en le dansant, soit en le lisant dans une traduction à peu près poétique, Et à partir de là, ensuite, on a une intuition devant ce texte. Il y a un mot qui accroche, il y a une phrase. Voilà, vous notez ça. Vous notez le mot, la phrase qui vous accroche. Ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous ne dit rien. Voilà, ça fonctionne comme ça, le poème. Alors, la question beaucoup plus radicale, mais je reviendrai sur la poétique en elle-même. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés. C'est, au fond, qu'est-ce qui caractérise la poésie hébraïque? Et j'ai intitulé le paragraphe « Recherche d'un principe organisateur ». Pendant très longtemps, on s'est demandé qu'est-ce qui constituait les canons. Les canons, vous voyez ce que ça veut dire, les procédés qui étaient mis en œuvre dans la poésie hébraïque. Et pendant une très très longue période, presque jusqu'au XVIIe siècle, on a essayé de rapprocher ça de la poésie occidentale, soit anglaise, française ou allemande, qui, elle, repose sur un principe très simple, c'est-à-dire des vers de 12 pieds, pour les tragédies ou les comédies, c'est-à-dire la règle, c'est de faire un alexandrin, c'est-à-dire un vers qui compte 12 syllabes accentuées. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Bien, alors si vous prenez un poème plus court, ce ne sera pas un alexandrin, ce sera quelque chose de plus bref. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Baudelaire, etc. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et qui m'aime et que j'aime et qui chaque fois n'est tout à fait la même ni tout à fait une autre. Vous voyez, bon, ça c'est du Baudelaire. Donc on a essayé de se dire que la poésie hébraïque était comme la poésie française, allemande ou anglaise, disons européenne en grande partie, et qu'elle était composée de vers. Alors on a cherché des vers. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais enfin, on pensait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais il y a un autre principe, si vous avez fait du latin et du grec, qui est, si vous voulez, non plus une succession de syllabes accentuées en un certain nombre, se terminant par une certaine sonorité, et au verset suivant, enfin au vers suivant, je dois retrouver la même sonorité, ce que d'ailleurs les poètes modernes, pour la plupart, ont abandonné. La rime n'est plus une règle sacro-sainte dans la poésie moderne, ni même le nombre de pieds d'un vers. Il y a des choses très belles, moi j'aime beaucoup Elbar, Aragon ou quelques autres, et des plus récents encore, qui eux ne pratiquent pas cette poésie rythmée par un nombre de syllabes. Mais en latin et en grec, il y a un principe qui est que la poésie fonctionne sur une alternance de longues et de brèves. Une longue suivie d'une autre longue, ça fait un pied si vous voulez, ou une longue suivie de deux brèves, ça fait un pied. Et donc ce qu'on appelle un hexamètre, un vers à six mètres, enfin, ou six pieds, six syllabes, eh bien, doit toujours se terminer à l'avant-dernière par une longue, une brève. Il y a une espèce de règle sacro-sainte. Mais en grec, par exemple, il y a 26 ou une trentaine de formules de pieds possibles dans cette alternance longue-brève. En latin, il y en a un petit peu moins. Enfin, ça fonctionne comme ça. Donc, vous avez tous appris ça à l'école, si vous avez fait un peu d'humanité. Comment, moi j'ai appris ça en tout cas au jardin d'enfants, on apprenait à mettre sur les voyelles, longues, brèves, enfin regarder dans le dictionnaire qui vous donnait tout, enfin on ne savait pas par cœur le truc. Alors on a appliqué ça aussi à la poésie hébraïque, mais ça n'a rien donné. Et il faut attendre à la page 2, un certain évêque anglican qui était professeur à Oxford, et plutôt professeur de littérature que de Bible, et qui a sorti un premier ouvrage, qui est intitulé, qui a été traduit en français, « Leçon sur la poésie sacrée des Hébreux ». Et ce que M. Lorth, c'est son nom, va découvrir, eh bien, c'est que, en quelque sorte, la poésie hébraïque ne repose pas sur une quantité de syllabes ou la quantité de certaines syllabes par rapport à d'autres, mais elle repose sur le parallélisme des membres. Donc, parallélisme des membres, ça veut dire que on divise un verset en général, mais le verset, c'est très tardif. Hein, la division de la Bible en versets, c'est au XVIe siècle. Hein, c'est pas du tout ancien comme système. Ils savent par cœur la Bible, donc ils n'ont pas besoin de la diviser en chapitres et en versets. Hein. Mais, en fait, on s'aperçoit que nous, ce qu'on appelle aujourd'hui le verset, peut se découper en deux ou en trois, la plupart du temps en deux, et qu'on va appeler un stick. S-T-I-Q-U-E, ça veut dire un bâton, enfin un morceau, un petit morceau. On appellera ça aussi un colon. Un colon, bon, c'est plutôt du grec, ça, que stick serait plutôt latin, hein, et qui signifie un membre de phrase, c'est-à-dire c'est la moitié d'un verset. Et vous avez beaucoup de versets, donc, qui sont des distiques, il y en a deux, ou des tristiques, il y en a trois, ou des bicolons, ou des tricolons. Vous avez compris un peu ça, hein, c'est très simple. Vous prenez votre verset, et vous le coupez en deux, et vous obtenez, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler un parallélisme sémantique. C'est-à-dire, ce qui fait la poésie hébraïque, ce n'est pas un problème de métrique, comme on dit, hein, mais c'est un problème de sémantique. On dit une chose et on la répète. Alors, paraît-il, d'après les grands linguistes, mais pour des langues que je ne connais pas, comme le russe ou le chinois, c'est ce principe de poétique qui existe également dans ces langues-là, hein, en russe et en chinois. Roman Jacobson, qui est un grand linguiste, qui a travaillé sur la poésie hébraïque, russe et chinoise en même temps, a démontré que ce principe du parallélisme était un procédé de poétique pour ces peuples-là. Donc c'est intéressant, la découverte de Lorth, hein, vous avez vu la date, hein, 1700 et quelques, enfin 1600-1700, trouve déjà ce que d'ailleurs des rabbins avaient déjà plus ou moins flairé au Moyen-Âge. Alors, à la suite de Lorth, on va, disons, affiner son affaire, parce que ce que donne Lorth, c'est très bien, mais une fois qu'on a dit, par exemple, « Ô Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre, je vais chanter ta majesté qui est au-dessus des cieux », on ne voit pas bien le parallélisme, « Par la bouche des enfants-sons et des nourrissons, tu affirmes ta puissance », on ne voit pas bien le parallélisme non plus. Voyez. Donc, on est un petit peu coincé dans la théorie de Lorth qu'on a répété indéfiniment jusqu'à l'orée du XXe siècle. Et c'est surtout les Anglais qui ont travaillé cette affaire-là. Mais manque de chance, toute la recherche britannique a été complètement éclipsée par la recherche allemande, qui à l'époque a lancé une méthode pour l'Ancien Testament comme pour le Nouveau, qu'on a appelée la Formgeschichte, c'est-à-dire la recherche des genres littéraires sur les textes bibliques, et éventuellement les milieux dans lesquels ces formes littéraires ou ces genres littéraires fonctionnaient. Et cette méthode-là va régner, si vous voulez, de 1880 jusqu'en 1950-60, où on va avoir une espèce d'éclipse de tous les travaux britanniques qui étaient faits sur la poésie hébraïque, autrement que de rechercher la forme littéraire et éventuellement les procédés poétiques de la Bible. À tel point, si vous voulez, que quand moi-même je me suis mis à ce genre de travail, je me suis aperçu qu'aucun livre de ces gens-là n'était en Europe, n'était en France. J'étais obligé d'aller en Angleterre, bon, où j'avais étudié, mais j'ai retrouvé en Angleterre les bouquins, mais ils étaient ni en Allemagne, ni en France. Ce qui vous prouve bien qu'il y avait la force allemande hein, l'avait emporté sur toute la recherche biblique et écrasé complètement les travaux de la fin du 19e en Angleterre. Et ces travaux-là, on les a exhumés vers les années 50-60. Et c'est à l'époque où je commence à m'intéresser à la Bible. Et du coup, avec Jean-Noël Aletti, qui est un collègue néo-testamentaire, on a fait un livre ensemble, en essayant de présenter un livre qui n'est pas le seul à parler de ces choses-là, mais il est un des premiers en France à reprendre un peu ces méthodes poétiques anglaises que je vais vous décrire dans le travail ici. On a étudié les 150 psaumes, hein, tous les deux, pour essayer de voir comment fonctionnait cette poésie hébraïque. Le livre est épuisé, donc vous ne le trouverez qu'en bibliothèque. On ne peut pas le rééditer parce qu'il faudrait tenir compte de tout ce qui a été publié depuis et on n'en a pas envie du tout. Il y a des choses moins intéressantes que d'autres. Or, qu'est-ce que donnait la postérité de l'évêque Lowth ? Eh bien, ça a donné, si vous voulez, un affinement relativement grand sur la poésie hébraïque et tout le monde s'y est mis, aussi bien les juifs que les chrétiens, mais les Allemands très peu. Il y a très peu de travaux allemands là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qui m'a orienté vers les psaumes, sachant qu'il n'y a pas trop d'Allemands dans le secteur. Et donc, il n'y aurait pas trop d'Allemands à lire. Toujours redoutable d'apprendre l'allemand, ce qui est une langue difficile. Père Lagrange, qui était le directeur de l'école biblique, disait que la première langue sémitique était l'allemand. C'est-à-dire, si vous vouliez faire de la Bible, il fallait faire de l'allemand d'abord, de l'hébreu puis du grec. Mais comme tout était en allemand, dans certaines méthodes. Mais là, justement, moi, j'ai eu la chance de trouver un créneau où c'était plutôt british. Alors, à la suite de Lowth, page 3, eh bien, on a trouvé plusieurs procédés qui sont extrêmement pertinents pour l'analyse des psaumes et qui sont déjà pour vous, je dirais, un outil extrêmement précieux quand vous étudiez un psaume. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. C'est-à-dire qu'en général, ce n'est pas propre à la poésie hébraïque, puisqu'on trouve ça même dans des films ou dans des romans, où la finale ressemble au commencement. Je pense à un film qui est d'Orson Welles, qui s'appelle Citizen Kane. Bien, la première image du film, vous voyez une espèce de hangar avec l'inscription « No trespassing », qui veut dire « défense d'entrée ». Et à la fin du film, vous revoyez encore cette même image par laquelle ça a commencé. Je crois que la Strada, c'est la même chose, ça commence plus ou moins avec la même image. Donc les grands auteurs utilisent ce procédé de l'inclusion. On ouvre et on ferme sur la même image. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Il y a tout un récit, il y a tout un tas de choses qu'on a dites. Et il est clair que quand vous revoyez l'image à la fin, elle est chargée de tout ce qui était entre la première et la dernière. Donc le procédé d'inclusion à la fois est un procédé de symétrie hein, qui vous permet de ramasser en quelque sorte commencement et la fin et de vous dire que le milieu est probablement la clé d'interprétation de ce qui, au début, vous a laissé un petit peu rêveur. Pourquoi il y a défense d'entrée ? Vous ne le saurez qu'en ayant vu le film. Et à la fin, vous voyez pourquoi on a mis défense d'entrée. Alors, ce procédé de symétrie est extrêmement important parce que il faut toujours, en quelque sorte, vous demander, quand vous lisez un psaume, commencer une fois que vous l'avez bien mariné dedans, hein, eh bien, de regarder si le début et la fin, il n'y a pas des correspondances. Et on va voir sur quoi s'établissent ces correspondances. Il est clair qu'avec le psaume 8, il n'y avait pas à chercher longtemps, puisque le même verset est répété. « Yahvé, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Yahvé, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » C'est QFD. Mais vous aurez très peu de psaumes où vous avez cette inclusion au début et à la fin, qui est aussi parfaite, puisque c'est un verset qui est répété. Généralement, ce sera un mot ou le même thème, on va voir tout à l'heure les ingrédients, si vous voulez, avec lesquels on fait ces inclusions. L'inclusion a plusieurs fonctions. Hein. La première fonction de l'inclusion, comme on écrit bout à bout en hébreu, parce que le papier coûte cher ou le parchemin n'est pas facile à... ça coûte une fortune. Il faut tuer pas mal d'animaux pour recopier les textes. Bien, on a tendance, en général, à ne pas faire souvent, dans beaucoup de manuscrits, dans les grands manuscrits, il n'y a même pas de séparation entre les mots, ce qui expliquera certaines difficultés. Selon que vous coupez comme ça ou comme ça, ça donne un sens différent. Ça expliquera certaines variantes entre la Septante et l'hébreu, par exemple. Donc, on ne coupe même pas les mots. Et, bien entendu, on ne vous dit pas psaume 8, et puis après ça, psaume 9, pour vous avertir qu'on est en train de changer de psaume. Mais on va écrire bout à bout les trucs. Alors, en fait, l'inclusion permet déjà de poser des bornes en posant un commencement et une fin. C'est-à-dire que si vous retrouvez sensiblement la même phrase, le même mot, le même thème, entre un endroit de votre texte non découpé, eh bien, là, vous aurez une unité qu'on peut dégager. Mais la chose n'est pas si facile que ça, à tel point d'ailleurs que la Septante et l'hébreu n'ont pas découpé pareil le psautier. Vous savez qu'il y a toujours un écart de un ou deux, voire trois psaumes entre ce qu'on appelle la Bible hébraïque. Alors, j'utilise toujours cette numérotation de la Bible hébraïque. Elle a ses inconvénients ou ses avantages. Et au contraire, la Bible liturgique que vous utilisez suit plutôt la Septante et la Vulgate, qui, elles, ont une autre division du texte. C'est-à-dire, certains psaumes dans l'hébreu ne forment qu'un seul psaume, et dans le grec, ça en donne deux. Ou il y en a deux dans l'hébreu, ça en donne un dans le grec ou le latin. Ce qui vous explique, si vous voulez, cette espèce de décalage et cette difficulté presque insurmontable de savoir que selon quelle modalité on a cité le psaume. Il n'y a pas trop de problème jusqu'au psaume 8, parce que ça commence un peu après. Hein, mais à partir des psaumes 100 et tout ça, alors là, on ne sait plus si on est en avance ou en retard. Et il y a toujours des confusions dans les citations. Je vous cite un texte. Ah, vous dites, mais non, c'est pas ça. Ben, regardez un ou deux avant ou un ou deux après, vous allez être dans le bon. Mais en tout cas, moi, systématiquement, même quand il s'agit du grec, je cite selon la numérotation hébraïque. Donc voilà pour l'inclusion. C'est clair, hein, il n'y a pas trop de difficultés. Alors, deuxième procédé, une fois que vous avez repéré des bornes entre une fin et un début, qui n'ont pas simplement pour but de découper le texte, mais qui en fait ont pour but en quelque sorte de montrer qu'il y a un rapport entre la fin et le début. Et la question que je vous poserai très souvent dans l'étude des psaumes, bien, quel est le rapport entre le début et la fin? Vous avez vu la dernière fois, c'était très intéressant, hein, quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple barbare, et vous retrouvez vers la fin, c'est pas forcément le dernier mot, hein, mais le Dieu de Jacob qui change le rocher en étang, ce Dieu de Jacob, qui normalement est une titulature d'un Dieu historique, d'un Dieu particulier qui agit dans l'histoire, ici est présenté comme non seulement agissant dans l'histoire, mais agissant sur le cosmos ou dans le cosmos. Et du coup, Dieu de Jacob, c'est pour ça qu'ils vous disent son sanctuaire, son domaine, pour ne pas que vous pensiez immédiatement au Dieu de l'histoire, parce qu'à la fin du texte, on va vous dire de quel Dieu il s'agit. Il s'agit du Dieu créateur et en même temps sauveur. Vous voyez, c'était très important. Et cette inclusion dans le psaume 114 est fondamentale entre le Jacob du début et le Jacob de la fin. Vous voyez un petit peu l'importance de l'inclusion. C'est justement de rassembler des thèmes. Vous allez retrouver ça dans presque tous les psaumes que je vous donnerai. Bon, je vous en donnerai quelques-uns qui ne fonctionnent pas comme ça, pour vous montrer qu'il y a des exceptions à la règle. Alors, deuxièmement, les différentes façons d'enchaîner les versets et c'est toujours à la page 3, il y a l'entrelacement, ou ce qu'on appelle structure alternée, et l'enchâssement, ce qu'on appelle structure concentrique. Vous allez voir, c'est relativement simple. L'entrelacement ou la structure alternée, elle va fonctionner. Alors, on va supposer, si vous voulez, donc la structure alternée, elle a un effet d'insistance, d'accumulation, d'amplification, soit sous la forme d'un décrescendo, moins fort, qui revient comme en écho mais affaibli, et du coup un poème pourra avoir la forme A, B, C, A prime, B prime, C prime, A seconde, B seconde, C seconde, on peut même répéter trois fois, enfin on peut donner trois fois. C'est une structure qui est assez fréquente et on voit très bien à quoi elle sert. Elle sert tout simplement à jouer sur l'intensification des propositions que l'on dit. En revanche, page 4, vous avez ce qu'on appelle l'enchâssement ou la structure concentrique, et c'est celle-là, d'une certaine façon, que nous trouverons le plus souvent. Et qui est de dégager un centre. C'est pour ça qu'on l'appelle concentrique. C'est-à-dire qu'elle va fonctionner avec une périphérie et un centre. Alors, concentrique, qui est souvent la plus fréquente, obéit à ce principe de dégager donc un centre et une périphérie. Mais dans certains cas, cette règle que je viens d'énoncer, qui est la plus habituelle, est contredite. C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est pas le problème d'un angle d'attaque par rapport à un thème, mais ce sera d'opposer deux thèmes. Il y aura un jeu d'opposition entre le centre et la périphérie. On dit une chose au centre et à la périphérie, on indique l'inverse ou une autre thématique et on fait jouer ensemble, si vous voulez, comme s'opposant ou en symétrie deux thèmes conjoints. Mais ce n'est pas le plus fréquent. Ceci arrive quelquefois. Première partie, donc, voilà un petit peu la question très importante, qu'il faut que vous arriviez à mémoriser. Le principe organisateur, trois points. La question donc de l'inclusion, la question des structures alternées, la question des structures concentriques. Deuxièmement, page 4, qu'est-ce qui concourt à la symétrie, c'est-à-dire avec quoi on fabrique ces structures, avec quoi c'est fait. Je ne saurais trop vous mettre en garde avant de développer ce paragraphe contre un certain nombre d'auteurs, aussi bien en Ancien Testament qu'en Nouveau Testament, qui vous font des structures avec n'importe quoi. C'est-à-dire, pourvu que ça fasse structure, Bon. Or, la règle sacro-sainte qu'il faut garder d'un bout à l'autre, ça ne veut pas dire qu'une structure ne se fasse pas à plusieurs niveaux, mais si vous en fabriquez une, il faut qu'elle repose sur le même principe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fabriquer en A une structure fondée en A. Alors, les ingrédients qui vont rentrer en composition, bien, il y a le rythme, c'est la page 5, en sachant que, si vous voulez, l'hébreu, comme le français a un gros... Normalement, on aurait dû avoir une très belle traduction des psaumes en français, ce que d'ailleurs le père Gélinot avait essayé de faire avec le père Tournet, M. Schwab. M. Schwab était à la fois un bon hébraïsant et un poète. Et la première traduction de la Bible de Jérusalem est relativement poétique. Bon, après ça, la Tob, j'en parle pas. Ni du tout. Et Bayard, alors là, c'est plus de la poésie, c'est du roman feuilleton. Bon. Mais, non, c'est vrai, on sait plus où on est, quoi. Alors, prenez par exemple une traduction en français. J'ai mis ça au milieu de la page. Hein. J'ai mis en caractère majuscule les accents français. Et c'est exactement comme en hébreu, l'accent est sur la dernière syllabe. Alors, en français, vous en rendez pas compte, parce que vous le parlez. C'est d'ailleurs notre difficulté lorsque nous parlons anglais, où l'accent sera plutôt sur la première. Donc, on reconnaît tout de suite un français qui parle anglais, parce qu'il mettra l'accent plutôt sur la dernière que la première syllabe. Difficulté hein, de langue. Magnifiez avec moi le Seigneur. Vous voyez, j'ai trois syllabes accentuées. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Trois syllabes. Bon, il y en a un, il y en a deux, etc. 27, un peu plus bas. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ça, c'est remarquable comme traduction. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Oui, et là, vous n'en êtes pas rendu compte, mais vous avez parfaitement compris où était la syllabe accentuée. Si vous chantez ça sur un autre air, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Bon, ben là, c'est foutu, on n'a plus. Ah, c'est pas évident du tout. Hein, je vous dis, il nous aurait fallu Rabelais hein, pour traduire la Bible. Alors, on a eu Clément Marot pour les psaumes, faut pas se plaindre. Vous en écouterez du Clément Marot hein, sur les psaumes. Mais malheureusement, au lieu de traduire un peu l'hébreu, il a refait des vers français. Bon, alors, c'est pas mal. Mais l'ennui, c'est qu'on perd un petit peu en précision du texte, quoi. Alors, la syntaxe peut jouer, les effets syntaxiques paraissent moins en traduction, mais je vous ai donné, par exemple, comme modèle le psaume 114, que vous connaissez maintenant. Vous avez le petit tableau à la page 6, hein, où il faut... En fait, quand vous analysez un psaume, vous pouvez très bien faire ce petit travail-là. Hein, c'est-à-dire de mettre en colonne... La descente, hein, la verticale, en ordonnée, vous pouvez mettre les paradigmes, et en abscisse, c'est-à-dire en horizontalité, la syntaxe. Avec la sortie d'Israël d'Égypte, de la maison de Jacob, d'un peuple barbare, c'est-à-dire vous mettez l'un sous l'autre ce qui va ensemble du point de vue syntaxique. Bon, ça c'est relativement facile à faire. Il faut savoir que en hébreu, je vous l'ai dit un petit peu la dernière fois, il y a ce qu'on pourrait appeler des phrases nominales, c'est-à-dire des phrases qui n'ont pas de verbe. En français, c'est interdit presque de faire des phrases nominales. Enfin, on en fait quelquefois et les copies des élèves, même de terminale, maintenant, font des phrases nominales. Mais il y a en hébreu, c'est tout à fait classique. Par exemple, « saint est son nom », c'est une phrase nominale, parce qu'il n'y a pas « et » en hébreu. « Saint, son nom ». En français, on restitue le « et », parce qu'on ne supporte pas les phrases nominales. Et puis, vous avez des phrases, au contraire, verbales, qui, elles, ont un verbe. Alors, la structure de la phrase hébraïque, et je vais terminer là-dessus, je vous ferai la sémantique la prochaine fois, vous voyez, je vous donne ça à dose homéopathique. La structure de la phrase hébraïque n'est pas tout à fait la structure de la phrase française. C'est-à-dire que, surtout dans les psaumes, on va plutôt dire les choses dans l'ordre où on les ressent, où on les pense. Vous voyez, quand vous faites une lettre à quelqu'un, vous réfléchissez avant d'écrire, surtout si vous faites une dissertation avec un professeur, ben vous allez mettre quand même les phrases dans un certain ordre pour qu'il y ait une certaine logique. Ben justement, la pensée hébraïque ne fonctionne pas forcément sur cette logique-là, mais sur davantage une logique affective où on sort les choses dans l'ordre où on les reçoit affectivement. Alors je vous donne un exemple un petit peu vulgaire, mais qui vous aidera à comprendre comment fonctionne la phrase hébraïque. Vous savez que sur le boulevard Raspail, presque à la sortie de Sèvres, il y a des petits marchés. Hein, tous les dimanches ou vendredis, enfin, quelques jours de la semaine, vous avez des marchés. Et il y avait sur ce marché une marchande de poissons ou de viande, et il y avait toujours un homme avec son chien qui se baladait par là. Et le chien venait quelquefois piquer quelque chose à l'étalage. C'est arrivé plusieurs fois. Alors la vendeuse, qui n'avait pas forcément fait le centre Sèvres, commence à s'énerver et elle emploie une phrase à tournure hébraïque qui est la suivante. « Moi, monsieur, votre chien, la prochaine fois, si ça continue, moi, monsieur, votre chien, la prochaine fois, si ça continue, c'est pas dans son cul que je mettrai mon pied, mais dans le vôtre. Bon. Et bien, là, vous avez exactement la tournure hébraïque. Oh là, c'est enregistré, je crois. Il faut que je fasse gaffe. Bon. Vous avez compris comment ça marche, hein? Moi, monsieur, votre chien, la prochaine fois, si ça continue, c'est pas non. Etc. Eh bien, si vous avez compris ça, vous avez compris exactement que ça fonctionne pas selon Descartes. Hein? C'est-à-dire qu'on est dans un système où la phrase se déploie sur le mode affectif. Alors, cherchez pas toujours une logique cartésienne donc dans ces textes-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier temps de l'analyse poétique ? Alors, oui, ce sera un petit peu ce qui va venir après. Alors, dans le papier, je crois que j'indique, mais toujours difficile de tout dire en même temps, parce que la prochaine fois, je ferai l'analyse sémantique. Hein. Je dirais qu'en gros, on va en garder cinq à peu près qui reviennent assez souvent. Le premier par lequel il faut toujours commencer, c'est le lexique, le vocabulaire. Ensuite, si avec le lexique ça ne marche pas, ou le vocabulaire ça ne marche pas, eh bien, vous allez essayer les alternances modales des verbes, indicatifs, impératifs. Alors, en hébreu, on pourrait le faire, mais on ne peut pas le faire, en fait, en traduction. C'est les alternances entre le passé, le présent et le futur. Mais ça, on a beaucoup plus de mal, puisque je vous ai dit que l'hébreu ne marquait pas dans le verbe le présent, le passé et le futur. Il marque l'accompli ou l'inaccompli, mais du coup, cet accompli ou cet inaccompli, faudrait traduire en français, faudrait presque mettre entre parenthèses accompli, inaccompli. Là, c'est fini, c'est pas fini, etc. Bon, donc, sur les modes des verbes, on peut y aller puisque c'est à peu près pareil. Bon, vocabulaire, mode des verbes. Troisièmement, faut déjà se méfier un petit peu plus, mais enfin, c'est ce que j'appellerais, si vous voulez, les thèmes. Les thèmes. C'est-à-dire que, en gros, vous lisez le premier verset, il est plutôt question d'histoire. Vous lisez le troisième verset, je pense au psaume 114, il est plutôt question de création. Puis on revient à l'histoire, puis on repasse à la création. Donc vous voyez, les thèmes. Bon, là, il faut dégager un peu les thèmes. Bon. Quelque chose qui marche très, très bien pour un certain nombre de psaumes que je vous ferai étudier, c'est l'alternance des pronoms. C'est-à-dire, pendant un certain temps, on va dire « tu » à Dieu, et à un autre moment, on va parler de lui en « il ». Alors ça, c'est très reparable en français et en hébreu, donc les pronoms personnels, l'alternance entre « moi, il » et « moi, tu hein, » dans le rapport. Alors, qui c'est qui est « tu », qui c'est qui est « il » ça peut généralement être Dieu qui va passer aux deux formes qu'on va tutoyer ou dont on va parler. Mais en hébreu, comme pour la phrase que je vous citais tout à l'heure, il mélange très très facilement le « il » et le « tu ». Alors on se dit, mais enfin, bon sang, il commence en « tu », ils n'ont qu'à continuer en « tu ». Ben non, ils vont remettre un « il » au milieu. Quoi. Ben oui, ce n'est pas pour vous ennuyer, c'est que là, on joue sur la valeur des pronoms, sur lequel je reviendrai de manière plus précise et plus technique. Donc ça vous en fait quatre déjà. Hein. Alors, un cinquième, c'est évidemment les genres littéraires. Bon, c'est de la louange au début, c'est plutôt de la plainte après, puis on revient à la louange, puis etc. Vous voyez ? Les genres littéraires peuvent jouer. Parce que vous savez que les psaumes ont été étudiés entre 1935, enfin 35 et 38, grâce à un grand savant allemand, qui a fait un très très beau travail, mais qui est un peu l'inventeur de cette fameuse méthode dont je parlais tout à l'heure, la forme Geschichte, c'est-à-dire quelle est la forme littéraire de tel texte biblique, et ensuite à quelle occasion on utilisait ce psaume-là, par exemple. Hein, quelle est la fête liturgique auquel correspond le psaume. Ou qui c'est qui a pu écrire ce psaume-là, vous voyez, d'où peut provenir le psaume du point de vue de sa rédaction. Alors Gunkel a beaucoup travaillé ça, il n'a pas publié le livre parce qu'il est mort avant, et c'est son disciple Begrich qui a publié ce livre-là en 37, et lequel Begrich a été tué à la guerre de 40, mais le livre était déjà publié. Alors ce livre de Gunkel, qui est intitulé « Introduction aux psaumes » est en fait une classification des psaumes en genre littéraire. Je pourrais vous donner les résultats de Gunkel. Et on peut dire qu'entre 1937 et 1970, ça a été la seule méthode avec laquelle on étudiait les psaumes. Moi, j'ai appris la lecture des psaumes à travers cette méthode dite « Formgeschichte Schule », c'est-à-dire l'école de l'histoire des formes. Parce qu'une forme a une naissance, a une mort, elle a une histoire, hein, elle se développe. Par exemple, pourquoi aujourd'hui on n'écrit plus de tragédie comme Racine ? Il y a un genre tragédie, bon, qui n'est pas le même chez Sophocle ou chez Racine ou chez Corneille, ni même chez Voltaire. Hein, il y a une évolution. Il va y avoir à la tragédie va succéder le drame. Et le drame, ce n'est pas tout à fait la tragédie, avec Shakespeare ou avec Victor Hugo, etc. Vous voyez, il y a des formes littéraires qui naissent, qui meurent et qui se transforment. Puis les milieux. Alors sur les milieux liturgiques, ou la liturgie et les psaumes, alors ça c'est une question qu'a surtout travaillé les Scandinaves. Alors, les Scandinaves ont été fanats de cette question, sur les psaumes et le culte. Mais seulement le problème, et il y a des très grands noms, hein, que ce soit au Danemark, que ce soit en Suède ou en Norvège, il y a des très très grands noms qui sont attachés à cette recherche sur les psaumes et le culte, mais trop souvent ils ont à l'horizon le culte protestant, enfin, ou luthérien, pour décrire le culte israélite, donc ils nous ont quelquefois embarqués dans des affaires un petit peu complexes. Et en particulier, un grand savant scandinave, Movinkel, qui a publié une thèse en inventant une fête qui n'existe même pas dans la Bible, qui n'est même pas mentionnée dans la Bible, et pour laquelle tout le psautier aurait été composé, la fête de l'intronisation de Yahvé. Hein. Vous voyez, comme quoi... et ça fonctionne très bien jusque dans les années 60-70. Bon. Et puis, après cette histoire des formes littéraires, on va au contraire revenir aux approches plus poétiques, donc celles dans lesquelles moi je me suis retrouvé au fond étudiant à ce moment-là, et je suis passé à cette méthode-là. Mais j'ai enseigné l'histoire des formes des psaumes pendant un certain temps avant de changer mon fusil d'épaule, hein, ou de méthode. Parce qu'il y avait guère que ça sur le marché, et c'était ça qui marchait bien. Alors, la prochaine fois, je vous ferai quelque chose autour de la sémantique. C'est-à-dire que... Alors, si je conclue la première partie et que j'introduis la seconde, je dirais que dans la première partie, il ne s'agit pas de s'amuser à faire des petits découpages, etc. Hein, petit A, petit B, petit C, A prime, B prime, C prime. Ça, c'est de la mécanique, ça. Mais toujours vous demander quel effet de sens produit cela. Les étudiants, quelquefois, s'amusent à faire des démontages, si vous voulez. Bien, quel effet de sens est produit ? Si je prends une comparaison, il faut ni trop découper le texte, enfin, ni trop le démonter, mais le démonter suffisamment pour qu'apparaissent bien les ensembles, les parties de ce texte. Je veux dire, vous n'avez pas besoin, pour savoir ce que c'est qu'un carburateur de voiture, de le démonter avec les 50 pièces qu'il constitue. J'ai juste à enlever deux boulons et je vous amène un carburateur, vous verrez ce que c'est. Mais je n'ai pas besoin de démonter les 50 pièces afférentes à la chose. Alors, quelquefois, les exégètes sont quand même pinailleurs et vont démonter jusqu'au dernier boulon. Tout n'a pas sens. Tout n'a pas sens dans un texte, mais il y a du sens qui émerge à partir d'un minimum de démontage. Alors, deuxième remarque pour introduire ce que je ferai la prochaine fois, avant de vous donner un petit moment de pause. La sémantique, c'est très important, mais elle est seconde, c'est-à-dire qu'elle ne vient que dans un deuxième temps, et elle consiste au fond à voir avec quoi, en quelque sorte, est fabriqué ce que je viens de vous dire là tout à l'heure. Vous m'avez posé la question, avec quoi on fait des structures concentriques ou alternées? Mais avec la sémantique. Si je prends une comparaison culinaire, je dirais que l'analyse structurelle, je ne parlerai jamais d'analyse rhétorique, si vous trouvez ça sous ma plume, il faut le rayer, hein. Mais je parle plutôt d'analyse de structure, ou la structure du texte, c'est sa structure formelle, si vous voulez, comment il est fait. Alors ça, je dirais que ça ressemble un peu à ce que vous faites en cuisine, quand vous lisez une méthode. Prenez 500 grammes de ceci, faites bouillir de l'eau pendant 5 minutes, ensuite jetez votre légume dedans, laissez refroidir, mettez au four et servez avec une sauce. Bon. Ça c'est, si vous voulez, c'est la séquence structurelle. Ça vaut pour énormément de cuisine. Bon. La sémantique a... Je ne vais pas vous faire des pommes de terre, mais je vais vous faire ce qu'on trouve dans le midi, la cagoule de pastis, là. Comment ça s'appelle ? Des fenouilles, voilà. Bon, alors, le fenouil, quelquefois, je peux le cuire comme des pommes de terre. Bon, moi, c'est du fenouil. Ah, je vais prendre aussi, hein, tiens, je vais mettre un petit zeste d'orange là-dedans, vous voyez. Bon, ça, c'est la sémantique. C'est-à-dire, c'est comment un auteur va donner du goût tout à fait particulier à des structures qui sont assez générales et assez froides. C'est-à-dire que la structure, il doit la respecter, la structure. Il n'en est pas maître, il doit se plier à des canons, à moyennant quoi, après, pour la sémantique, il va jouer justement sur la polysémie des mots, et là-dessus, ça va être un régal, parce que si on a affaire à vraiment quelqu'un qui est poète, eh bien, on va trouver des choses extraordinaires, et bien faites, et bien dites. Si vous voulez, moi je sais faire un alexandrin, j'y suis arrivé une fois ou l'autre, mais c'est pas du Baudelaire, hein, je suis désolé. C'est ce qu'on appelle des vers de mirliton, vous savez, des gens qui vous font des vers. C'est facile à trouver, hein. Parce que, bon, je respecte simplement les 12 syllabes, bon, ça, j'ai pas trop de mal à faire, 2, 3 à l'affilée, bon, ça va à peu près. Mais jamais je ne ferai du Verlaine ou du Baudelaire. Il manque le génie. Alors par contre, je sais démonter du Baudelaire ou du Verlaine. Je me suis même payé le culot une fois d'aller voir un poète contemporain en lui disant, bah, écoutez, moi j'analyse des psaumes et je voudrais savoir comment vous réagissez à l'analyse que j'ai faite de votre poème. Et nous sommes restés 3 heures ensemble. Il est mort maintenant. C'était André Dautel. Non, c'était quelqu'un de célèbre. Hein. André Dautel, j'ai passé 3 heures avec lui. Et je lui ai dit, ben voilà comment j'interprète votre poème. Peut-être qu'on fera son poème ensemble, d'ailleurs. Et alors, à chaque fois, il me disait, ah ben oui, 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 ben vous avez trouvé des trucs là que je n'avais pas pensé à ça, oui. Mais... Et alors ça, je vous donnerai des affaires là, sur ce problème-là. Est-ce que c'est vraiment ça que l'auteur a voulu dire? C'est une question que vous posez quelquefois. Ben, moi, comme un film, j'ai fait remarquer l'autre jour à Jean Collet, que dans le film « Mon oncle », que nous avions visionné avec lui quand j'étais étudiant, on a découvert un truc que lui n'avait pas vu, et que l'auteur, certainement, c'était intentionnel. On s'apercevait que la gabardine du maître, eh bien, c'était le même tissu qu'avait servi à faire l'habit du chien. Il y a un chien dans mon oncle. Ben, il a le même costard que le maître. Ben, je dirais que ça, c'est pas aléatoire. Seulement, tout d'un coup, on s'aperçoit, ah, mais oui, et pourquoi? Vous voyez, il y a un effet de sens là. Alors pourquoi il a fait ça? Donc souvent c'est c'est plutôt de la bonne observation qui vous permet de trouver des choses. Voilà, je vous donne 5 minutes de pause. Ça va pas être gourmand. Ça va les faire venir. Bon, allez, on y va, hein, parce que sinon, vous n'en aurez pas pour votre argent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas du tout de langue française? Quelle est votre langue habituelle? Quelle est votre langue habituelle? Ah, bon. Mais comme les Néerlandais parlent toutes les langues, ne fait pas trop de soucis. Les plus doués en langue sont les Hongrois parce qu'ils ont tous les sons de toutes les langues. Alors, ils parlent parfaitement toutes les langues. Non, ça va, le rythme, ça va, c'est pas trop rapide? D'accord. Parce que, ayant été étudiant moi-même sur une autre terre, je sais ce qu'il en est d'écouter des cours dans quelque chose qui n'est pas sa langue ni paternelle ni maternelle. Alors, avant de s'embarquer dans l'étude d'un psaume, il y a une opération un peu préliminaire qui va consister, que vous n'aurez pas à faire la plupart du temps, hein, mais qui est la critique textuelle. C'est-à-dire, au fond, la critique textuelle, c'est quelque chose de très simple, mais très technique. Ça consiste tout simplement à essayer d'expliquer les difficultés textuelles du texte, parce que vous savez qu'un texte, c'est une transmission, et ça s'est transmis en hébreu. Pendant très longtemps, ça n'a reposé que sur un seul manuscrit, puis grâce à Qumran, on a des manuscrits beaucoup plus récents. Mais le grand manuscrit sur lequel toutes nos Bibles hébraïques reposaient était un manuscrit du 9e-10e siècle, qui était le manuscrit d'Alep, en Syrie, et lequel manuscrit s'était retrouvé à Leningrad. Enfin, il y a toute une histoire du manuscrit B, qui servait donc de base au texte massorétique, et qu'on a recopié pendant tout le Moyen-Âge. Mais on n'avait rien d'antérieur au Xe siècle. Et grâce aux découvertes de Qumran ou de Masada, eh bien, on a retrouvé des psautiers qui, eux, remontent entre moins 300 avant Jésus-Christ, pour les plus hauts, et plus 68, puisque Qumran est, et on quitte Qumran en avril 68, pas mai, hein, avril 68, après Jésus-Christ. Et donc, on sait que là, ça s'arrête. Donc, les manuscrits couvrent à peu près 2 siècles et demi. Et vous savez combien on a trouvé de psautiers à Qumran ? Ils ne sont pas complets, malheureusement. Mais on en a trouvé 37. C'est des bouts de psautiers. Hein. Il y a des morceaux très... C'est peu. Et on a constaté, en gros, si vous voulez, que le texte de Qumran, en fin de compte, était plus récent, c'est-à-dire qu'il avait recopié des manuscrits plus récents que notre manuscrit du Xe siècle après Jésus-Christ, qui lui reposait sur un manuscrit probablement plus ancien que ceux qu'on a retrouvés à Qumran. Donc, ex-plus ancien. Peut-être le texte le plus ancien des psaumes, c'est celui qui sert de substrat à la Septante, c'est-à-dire à la Bible grecque, puisque là, on sait qu'ils ont traduit la Bible en grec à partir de manuscrits hébraïques en 245 avant Jésus-Christ. Donc, comme vous voyez, si je vous mets le texte de la Septante, ce n'est pas pour m'amuser, c'est pour vous montrer que, quelquefois, un problème posé par le texte massorétique, étant donné qu'on ne met pas les voyelles en hébreu, vous savez qu'on a mis, on va mettre les voyelles au VIe siècle après Jésus-Christ, donc le texte se trimballe sans aucune voyelle. Donc, selon les voyelles que vous mettez sous certaines consonnes, ça ne donne pas le même sens du mot. Et il y a des racines très proches l'une de l'autre, comme en français, où il y a des... Vous pouvez confondre, vous avez des grammaires ou des petits bouquins très bien faits qui vous disent ne pas confondre tel verbe avec tel autre, qui ont des formes très très proches. Et du coup, en hébreu, c'est la même chose. Mais selon les, comme il n'y a pas les voyelles, la complication est plus grande. Et pour le texte hébreu, c'est par rapport au grec, qui lui est obligé de lire un certain nombre de choses, il peut y avoir des erreurs. Alors, dans ce psaume-là, il y a quelques difficultés textuelles, pratiquement impossibles à résoudre. Que ton nom est magnifique par toute la terre. Bon, que ton nom est magnifique par toute la terre. Ça ne pose pas trop de problèmes. Bon. Par contre, il y a quelque chose qui a donné en grec. Vous voyez, par exemple, que ton nom est admirable par toute la terre, car est élevée ta magnificence au-dessus des cieux. Et en hébreu, vous avez « Je vais chanter ta majesté qui est au-dessus des cieux ». Là, vous avez un cas désespéré d'exégèse. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'il y a en hébreu. Ce qu'il y a en hébreu ne fait pas sens. Alors, ils mettent n'importe quoi. Hein. « Je vais chanter ta majesté pour Dorme ». Vos bibles ont dû mettre autre chose. Mais en fait, on ne sait pas lire ce verset-là, et c'est un petit peu plus clair dans la Vulgate, qui, elle, a lu un autre mot que celui qui est. Mais tel que c'est en hébreu, c'est impossible à comprendre. Les Bibles grecques qui ne sont pas de la Septante, mais qui sont plus récentes, toi qui as posé ta splendeur sur les cieux, bref, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, ce qu'il ne faut jamais faire et qu'on a fait pendant un siècle, c'est de corriger le texte hébreu. Ce qu'on ne comprend pas, alors on le corrige. Et quand on a découvert Qumran, on s'est aperçu que toutes les corrections qu'on avait passé son temps à faire au 18e, 19e siècle ont été invalidées par Qumran. C'est-à-dire que Qumran n'a confirmé aucune correction qu'on avait faite. Ça a été un coup dur pour les exégètes. Ils avaient bossé deux siècles à corriger le texte hébreu en disant « Oui, il y a ça, mais ça veut dire ça, il faut corriger. » Bon, ben, ils ont eu la... On leur a rendu leur copie avec les découvertes de Qumran où pratiquement aucune traduction n'a été validée ou aucune transformation n'a été validée. Donc, n'en faisons pas. Quand on ne comprend pas, bien, on ne comprend pas. Hein. Bon, c'est... Il faut accepter qu'il y a des obscurités dans le texte. Alors, quelquefois, le texte de la Septante vient au secours. Le Targoum, vous avez vu comment il s'en est tiré. « Toi qui as posé ta splendeur sur les cieux. » Bon, manifestement, là, il s'en est tiré comme il a pu. Donc, gros problème sur ce verset 4 et 5. Bon. D'avance encore dans la traduction, « Par la bouche des enfants-sons et des nourrissons, tu affirmes ta puissance, en réponse à tes adversaires pour supprimer l'ennemi et le vindicatif. » Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça rend à peu près l'hébreu. « Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme ?» Alors ici, c'est « Enoch »,« Enosh ». En hébreu, il y a deux mots pour dire « homme ».« Enoch », que vous connaissez par ailleurs, il y a un verset qui lui est consacré, c'est celui qui se fait attraper par les cheveux et on l'emmène au ciel. Il n'a pas passé longtemps sur terre, il s'est fait kidnapper par un ange. Bon. Alors, Enosh, c'est l'homme, mais dans sa fragilité. Hein, Enosh, c'est la fragilité de l'homme. Et puis, Adam, ou fils d'Adam, Ben Adam, c'est-à-dire fils de la terre. Adam, c'est la terre. En fait, c'est pas la terre, c'est la rouge. Mais comme la terre est rouge en Israël, comme en Algérie d'ailleurs, la terre est rouge, bien, la terre est désignée par la couleur. C'est une figure de style. On va désigner une chose par une de ses qualités, par exemple. Donc, on dira fils de l'homme, Adam. Bon, ça a donné le mot Adam, qui peut être un nom propre ou un nom commun. Nom propre, c'est Adam par rapport à Ève, et nom commun, Adam, l'humanité, der Mensch. C'est-à-dire qui comprend l'homme et la femme. Donc, ça peut vouloir dire ça. Alors, petit problème de traduction au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Le fils d'Adam que tu t'en occupes. Alors, ici, on peut traduire le verset suivant, le verset 6, de deux façons, comme il est traduit dans vos Bibles. Tu l'as fait inférieur un peu aux Elohim. Le Targoum, lui, tu l'as amoindri un peu par rapport aux anges, parce que le mot Elohim peut signifier les dieux ou les anges. Ah, donc... Targoum a plutôt choisi les anges. D'ailleurs, dans ce psaume-là qui est cité dans l'Épître aux Hébreux, on dit que le Christ, pour un moment, a été mis inférieur aux anges. En grec, il y a anges. Cite bien le psaume 8. Alors, on peut traduire comme ça, mais on peut aussi traduire, et moi je préfère, « Tu l'as fait ayant besoin de Dieu un peu ». Alors, j'éclaircis ma traduction. Tu l'as fait Dieu ou tu l'as fait comme un être qui a besoin de Dieu. Donc, la constitution de l'homme, ce n'est pas d'être inférieur à Dieu, dans cette traduction, c'est que Dieu est constitué comme ayant besoin de Dieu un peu. Ça va? Vous voyez la différence? Hein? Donc, soit en dessous de Dieu, inférieur à Dieu, soit... en relation à Dieu, mais d'être de besoin par rapport à Dieu, mais on ajoute un petit peu, à un poil près, il pourrait être indépendant, mais il a besoin de Dieu. Donc je préfère cette traduction pour des tas de raisons. Voilà, bon, une fois ces problèmes-là résolus, alors le mot « dominer les œuvres de tes mains », comme ça pose des gros problèmes écologiques, ça, hein, c'est-à-dire il y a quand même un enjeu scientifique et écologique là-dedans. Il y a eu beaucoup d'articles de fait sur ce psaume-là, sur le caractère de domination de l'homme, de la nature, etc. Le mot « dominer » n'est pas forcément la meilleure traduction. Le Targum est meilleur. Tu lui as donné le pouvoir sur les œuvres de tes mains. Ici, on a tu as rangé toutes choses sous ses pieds. Tu l'as établi sur les œuvres de... Établir dans la Septante, c'est déjà mieux. Hein. Et le maître de Sassi... Et tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains, etc. La Bible de Glaire que je vous ai mis, c'est une traduction de la Septante, un peu plus littérale que le maître de Sassy, mais moins littéraire. Le maître de Sassy, c'est quelqu'un du XVIIe, de Port-Royal, hein, qui a traduit la Vulgate en français. Vous trouverez ça dans la collection Bouquins, si ça vous intéresse, qui est une très belle traduction de la Bible en français. Mais malheureusement, c'est une traduction faite sur la Vulgate, sur le latin, et non pas sur l'hébreu. Mais à la limite, puisqu'on suit le texte latin comme référence, on pourrait très bien la prendre comme lecture dans la liturgie. Elle a au moins la valeur d'être une traduction littéraire. Glaire n'est pas littéraire, lui. Il n'y a pas non plus de très bonne traduction de la Septante. Français, c'est des traductions plutôt de travail. Par contre, les Italiens ont traduit, alors c'est un chef-d'œuvre, ils ont traduit le psautier de la Septante, c'est un petit chef-d'œuvre. En espagnol aussi, c'est pas mal. Pour l'hébreu, c'est pas si mal. Et l'anglais, ben l'anglais, si vous voulez, c'est mon fameux psautier de Camus. Anglais, là. Vous avez vu, c'est du très très bon anglais, mais du 16e. Hein. Bon, donc c'est un petit peu qui nous surprennent. Alors voilà un petit peu donc l'essentiel pour arriver un petit peu à la structure du psaume. Alors maintenant, comment il est fait ce psaume? Je vous ai donné beaucoup de choses dans mon papier. Hein, vous n'avez pas. Et je vais essayer de les reprendre tranquillement avec vous. Alors, d'abord, quelle est sa structure? Structure. Ça. Voilà. Ça va se trouver par là. Eh bien, il a une structure concentrique. Relativement simple à dégager. Je vous l'avais même mise dans le texte. Je ne vais pas trop y insister. Bon, je vous ai donné ce que les collègues ont essayé de faire. C'est mal, mais je préfère la mienne, quoi. Bon. Alors, pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est plus proche de texte hébreu. Hein, c'est-à-dire qu'on a donc une structure concentrique. Alors, vous allez voir que c'est faux, ça marche comme une cathédrale. Hein. Donc, A, Yahvé notre Dieu, que ton nom est grand par toute la terre. Traduit par univers en français. En fait, en hébreu, c'est pas, y a pas le mot univers, ça n'existe pas. Comment on dit univers en hébreu? Vous le dites tout le temps à la messe. Et ils utilisent ce qu'on appelle une expression bipolaire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ça veut dire, ben là, voilà, c'est l'univers. Mais ils ont un mot pour dire le monde, olam, Olam, mais ça ne veut pas dire le monde. Ils n'ont pas, en hébreu, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, une abstraction possible des grands ensembles. C'est-à-dire, ils n'ont pas de mots pour dire le corps. Pas de mots pour dire le corps. L'abstraction, le corps. Le corps, c'est fait de pièces détachées. Alors, il y a la face, il y a la chair, éventuellement à l'intérieur, il y a du sang. Donc, je vais désigner le corps par un élément du corps. De même, l'univers, ce sera le ciel et la terre, mais le mot univers n'en existe pas. Dieu des arts, on traduit enfin, Dieu de l'univers avec Yahvé Sabaoth, ce qui, à mon avis, est un peu... Parce que Sabaoth, c'est les armées. Alors, ce n'est pas les armées, c'est les armées célestes. On compare les astres à une armée parce qu'elle est très bien organisée, très bien rangée. Donc, on peut dire Dieu de l'univers, mais enfin, c'est un petit peu loin de ce qu'il y a. Et je comprends que Sabaoth puisse faire difficulté. Alors, si j'essaie de fabriquer ma structure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de difficulté pour A et A prime, hein, c'est clair. A, B, je vais essayer de mettre le verset 2 en rapport avec le verset 9. Ta majesté est au-dessus des cieux. Et au verset 9, qu'est-ce que j'ai ? L'oiseau des cieux. Donc, si vous voulez, j'ai un verset complet entre A et A prime. Aussitôt après, je prends le mot « cieux » et je vais retrouver le mot « cieux » au verset 9, pas très loin de la fin, A. Donc, j'ai déjà A et j'ai B. Donc, A prime, B, B prime. Ça va ? C'est clair ? Je joue des cieux. Ensuite, au verset 4... Les œuvres de tes doigts. Et au verset 7, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Alors, je vous ai dit qu'il fallait être absolument rigoureux sur le vocabulaire. Là, on va faire une toute petite transgression, mais vous avouerez quand même qu'entre la main et les doigts, on est quand même dans la... Et puis surtout, il y a œuvre, il y a le mot œuvre, si ça ne vous suffisait pas. Œuvre qui est là, mais mains et doigts peuvent être considérés comme absolument symétriques et renvoyés à la même chose. Quand vous dites les doigts, vous prenez les parties, et quand vous prenez la main, vous prenez le tout. Donc je peux désigner le tout ou la partie. En gros, c'est une métaphore, enfin, c'est ce qu'on appelle une métonymie, je vous expliquerai ça à propos de la sémantique. Et on fait continuellement ce genre de travail. Si je continue après, vous allez avoir une sorte de symétrie entre fils d'Adam et homme, bon, qui va donc surtout dégager un centre. Et on peut dire que le centre, en fin de compte, c'est quoi ? Qu'est-ce que l'homme ? C'est au fond l'interrogation qui est au centre. Vous voyez, j'ai parlé de la symétrie entre le début et la fin, bon, et je réussis à construire quelque chose en A, B, C, D, C prime, B prime, A prime, c'est pas mal. J'arrive à quatre éléments, et au centre se retrouve la question de l'homme, dont on dit un certain nombre de choses. Alors, ta majesté est au-dessus des cieux. Alors, le mot majesté qui est employé ici est un mot, si vous voulez, qui signifie la grandeur de Dieu. Vous aurez remarqué, d'ailleurs, je vous l'ai mis dans la feuille d'analyse à la page 6, que le texte comprend des propositions impératives, indicatives, exclamatives, négatives, interrogatives. Enfin, il joue beaucoup sur la modalité de l'emploi des verbes. Également, il joue sur les pronoms, hein, et en particulier cet exclamatif « qu'est-ce que l'homme ?» Ben, soit, en fait, il y a quelque chose qui n'apparaît pas en français, malheureusement, même dans ma traduction, et c'est là qu'on est toujours un peu limité. Le « que ton nom est magnifique » du début et de la fin est exactement le même mot que « qu'est-ce que l'homme ?» « Ma » en hébreu peut être à la fois un exclamatif, un interrogatif ou un relatif. Donc, vous avez, en fait, on s'aperçoit en même temps que alors, on commence par parler de Dieu. Alors, la majesté de Dieu, c'est un terme qui peut vous paraître abstrait, mais c'est un peu comme le mot gloire ou splendeur qu'on peut appliquer aux choses et à Dieu. Hein, mais c'est très rare qu'on nomme Dieu par son nom. On parlera quelquefois plutôt des effets qu'il produit. Hein, c'est assez classique dans la Bible, on parlera de la gloire de Dieu, par exemple, beaucoup. On parlera de l'Esprit de Dieu, on ne dira pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui agit, c'est son Esprit. Ce qu'on perçoit dans un certain nombre d'effets de la création, ce n'est pas Dieu, mais c'est sa gloire. La gloire, c'est ce qui a du poids. Hein. Et la splendeur, c'est plutôt du côté de la... ou la majesté du côté de la beauté. Par la bouche des enfants-sons et des nourrissons, tu fondes ta puissance. Ah, par la bouche des enfants-sons et des nourrissons. Je ne sais pas si vous avez entendu piailler des enfants-sons et des nourrissons. C'est du semi-langage, enfin c'est du langage, mais enfin, c'est pas encore très... On est loin de Baudelaire, hein. Bon. Enfin, les enfants-sons et les nourrissons. Il n'y a pas beaucoup de différence en hébreu ou en français, hein, sinon qu'on est vraiment dans l'âge tout à fait basique. Là, on est au début, hein, enfançons, nourrissons. Or, il est question de la puissance de Dieu, bon, que tu opposes à ton adversaire. Qu'est-ce que vient faire l'adversaire au niveau des nourrissons? Ça, vous ne le saurez qu'à la fin. Là, on soulève les lièvres. Alors, pour supprimer, l'ennemi est le vindicatif. Ce verset 3, je vous assure qu'il a fait couler de l'encre et on a du mal à trouver ce qu'il veut dire, mais on va continuer la lecture. Quand je vois tes cieux, ah, donc on était au-dessus des cieux tout à l'heure. Maintenant, on est dans les cieux. Vous savez, ils ont un système très étagé, les Hébreux. Il y a le ciel, il y a au-dessus du ciel, et puis il y a encore au-dessus du ciel. Alors, au-dessus, il y a Yahvé. En dessous, il y a un autre ciel qui est le ciel des astres, hein, ou des puissances. Bon. Puis en dessous, ben, il y a encore un autre ciel. C'est pour ça que le mot « ciel » en hébreu est ressorti à trois catégories, si vous voulez. Il y a le ciel des astres, le ciel des dieux, et le dernier, c'est le ciel des oiseaux. Bon. Ah oui, les oiseaux du ciel, bah oui, mais c'est pas le même ciel que celui où on va aller. Enfin, je veux dire, hein, c'est un autre. Comment ?
Ah ben les anges, ils sont dans le juste en dessous, juste en dessous de Dieu. C'est là qu'ils sont placés. Mais là, on voit très bien que quand je vois tes cieux, ça va être connoté aussitôt après, c'est pas le ciel des oiseaux ni des dieux, c'est le ciel des astres. Œuvre de tes doigts. Ah, Dieu est comparé à quelqu'un qui a bricolé quelque chose avec ses doigts. Il aurait pu mettre œuvre de tes mains, ça n'aurait pas gêné, mais les doigts, pour montrer qu'il y a quelque chose d'affiné là-dedans. La lune et les étoiles que tu as fixées. Ah, ils imaginent le cosmos, si vous voulez, comme une espèce de bateau sur l'eau, bien arrimé, et puis au-dessus du bateau, une grande toile tendue, hein, comme ça. Plutôt en ferraille qu'en ligne. Hein. Et puis avec des écluses, de temps en temps, paf, ils ouvrent les écluses pour laisser tomber l'eau, parce qu'il faut quand même que ça... Et puis accroché à ce plafond, ben, y a un luminaire pour la nuit, un luminaire pour le jour, le soleil et les étoiles, et la lune, puis il y a les étoiles. Ici, vous aurez remarqué, il y a la lune et les étoiles, mais il n'y a pas de soleil, comme aujourd'hui. Mais retenez ça, c'est-à-dire que quand vous lisez un texte, il faut vous dire, tiens, la lune et les étoiles, qu'est-ce qui nous manque? Ah, il nous manque le soleil, évidemment. Oui, mais il n'y a pas de... Non, le soleil n'est pas une étoile pour eux, justement. Ah oui, alors, tiens, c'est intéressant votre remarque, parce que il faut surtout lire le texte dans leur problématique à eux, scientifique, qui n'est pas la nôtre. Pour nous, bien sûr, le soleil est une étoile. C'est une étoile parmi d'autres. Mais pour eux, pas du tout. Non, le soleil, c'est vraiment... Parce qu'ils n'imaginent pas... En gros, jusqu'au XVIe siècle, presque jusqu'au XVIe siècle, on va faire une erreur qui va... C'est Newton qui va réussir à dégager le problème, mais vous savez que la distance entre la Terre et la Lune est à peu près de 300 000 kilomètres. C'est la banlieue, hein. Et étant donné la grosseur du Soleil, on s'imaginait qu'il était à la même distance que la Lune, plus gros, mais à la même distance que la Lune. Et il faut attendre Newton avec tout son système stellaire, tout ce qui tourne autour, et éventuellement la grosseur de tout ce qui tourne et les vitesses et tout ça, pour discerner que le Soleil est beaucoup plus loin, beaucoup plus gros, et la distance n'est plus du tout la même que celle de la Lune. Mais pour eux, en gros, les étoiles, la Lune et le Soleil sont à peu près, comme si vous voulez, on est plutôt dans un plan que dans un espace. Quoi. Ils mettent tout ça dans le même, accroché au plafond. Quoi. Donc, il n'y a pas de Soleil. Et les étoiles que tu as fixées, on voit bien, il a accroché ça au plafond. Alors, on arrive au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes? Le fils d'Adam, pour que tu en prennes souci. Tu l'as fait ayant besoin de Dieu un peu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ah. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Si j'ai les pieds, est-ce que j'ai la tête ? Voilà, généralement les couronnes, ça se met sur les têtes. Donc, c'est ce qu'on appelle une ellipse, ou une métonymie encore, enfin, ou quelque chose qui suggère. C'est-à-dire que si vous avez le verbe couronner, nécessairement, vous avez la tête, implicitement. Alors, vous avez des psaumes où, en fait, il faut vraiment remonter au troisième, quatrième degré pour trouver ce qu'il y a derrière. Là, c'est presque immédiat. La couronne, c'est la tête. Alors, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ah, c'est intéressant parce que ces mots gloire et honneur s'appliquent plus souvent à Dieu qu'à l'homme. Or ici, par la tête, l'homme en quelque sorte par la tête, c'est-à-dire par le biais de la couronne, hein, par la tête, l'homme est apparenté à Dieu. du point de vue de la gloire et de l'honneur. Et du côté des pieds, il est plutôt du côté de la création. D'où la question, si vous voulez, qu'est-ce que l'homme? Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas trop ce que c'est un hybride. C'est quelqu'un qui part une partie de lui-même par la tête, mais ils ne mettent rien dans le cerveau. Pour eux, c'est une boîte vide. La pensée et les sentiments superficiels sont dans le cœur. La pensée profonde, elle est plutôt dans les reins. Et la pensée profonde, 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 elle est plutôt dans l'utérus. Alors j'allais me dire, mais alors tout le monde en a pas un. Ben si, Dieu en a un. Même. Hein? Grandes émotions sont au niveau utérin. Ensuite, les reins, là c'est déjà là, c'est descendu profond. Hein. Or, le cœur, c'est la pensée superficielle, c'est l'émotion superficielle, mais c'est surtout le lieu de la pensée. Ils ne mettent rien dans le cerveau. Bon. Peut-être que c'est compliqué à avoir découvert après, mais eux, voilà, c'est. Mais il faut tenir compte de leur anthropologie, il faut tenir compte de leur cosmologie pour pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Donc ici, l'homme est apparenté à Dieu. Ça ne veut pas dire, la tête ici ne désigne pas le côté cérébral, le côté pensée de l'homme que n'a pas l'animal. Non, il désigne simplement la partie haute de l'homme par rapport à la partie basse que sont les pieds. Vous voyez ici, ce serait à contresens d'imaginer que l'homme a quelque chose à voir avec le divin en raison de son intelligence. Ou en raison de son cerveau, c'est pas du tout ça que le texte veut dire. Le texte veut simplement dire que l'homme a quand même quelque chose que eux ont découvert et qu'ils vont exploiter pas mal, même dans la symbolique. L'homme est le seul animal à se tenir sur ses pieds. Vous savez que le roi Gouran a fait un travail extraordinaire sur comment, ce que ça a pu nous coûter de nous mettre debout, de nous mettre sur deux pattes et de garder deux mains, on a perdu quand même un peu au change. C'est-à-dire que le singe a l'avantage d'avoir quatre mains, ce qui est bien commode dans un certain nombre de circonstances. Et toutes vos douleurs lombaires ou cervicales, vous pouvez les attribuer à cette volonté de vous tenir debout. Moi, j'en connais quelque chose. Hein. La L4, L5, tout ça, ça nous joue des tours, mais c'est parce qu'on veut être droit. Très bien, on est droit, mais on en paye le prix. L'animal, il ne fait pas de sciatique ni de chloralgie, enfin, quelquefois. Mais... Donc, position verticale de l'homme, ça oui, ils sont sensibles à ça. Et par le biais du haut, il est rattaché à Dieu dans la gloire et la splendeur. Et par rapport au bas, il règne, c'est pas dominé au sens d'écraser. J'aime beaucoup un mot que j'utilise souvent, soit le mot de gérer, soit le mot d'intendance. L'homme est l'intendant de la création. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors, il y a toute une catégorisation des bestioles, les brebis et les bœufs tous ensemble, et même les bêtes sauvages. C'est-à-dire que ça, l'homme en a la gestion. Les bêtes sauvages, parce que c'est ce qui échappe un petit peu. Alors, il a une classification qui n'est pas celle des grandes classifications de Linné ou de, comment il s'appelle, celui qui a travaillé sur les classifications animales. Voilà. Donc, ensuite, l'oiseau des cieux. Ben, ne croyez pas qu'oiseau des cieux, ce soit une redondance sémantique. C'est que pour être un oiseau, il faut voler. Et voler dans les cieux. Si vous ne volez pas dans les cieux, vous n'êtes pas un oiseau. Donnez-moi un oiseau qui ne vole pas dans les cieux. Non, elle saute quand même un peu, donc le ciel est assez bas pour la poule, mais elle vole quand même. Non, l'autruche, l'autruche, on ne peut pas en manger, c'est au point de vue de la cache-route, enfin au point de vue de la nourriture, parce qu'il ne vit pas dans l'élément pour lequel il a l'équipement anatomique. C'est ça son problème. Donc, il est interdit de consommation. De même, le canard, normalement, lui, il devrait être dans les cieux, mais il vole, on est bien d'accord, mais il est trop souvent sur l'eau. Donc, on ne peut pas le manger non plus. Donc, on ne mange pas de canard. Par contre, vous avez des animaux qui ont l'équipement
terrestres et qui vivent dans la flotte, c'est pas bon non plus, quoi. Et réciproquement. Donc ici, oiseau des cieux, c'est vraiment l'oiseau, c'est-à-dire celui qui appartient à la catégorie oiseau dans la classification de Genèse 1. Les poissons de la mer et tout ce qui va sa route dans la mer. Bon. Donc on a passé alors les brebis et les bœufs, en gros les bovins et les ovins, bon, c'est-à-dire les bestioles qu'on a à peu près autour de soi, enfin familiers, les bêtes sauvages qu'on ajoute comme une enclave, et puis on remonte aux oiseaux. Et c'est intéressant parce que on descend avec les pieds, on va au plus près, c'est-à-dire les bêtes et les bœufs. Ensuite, les bêtes sauvages, c'est un peu ce qui nous échappe. Puis, paf, on remonte aussi vers le haut, tout de suite, les oiseaux des cieux. Et ensuite, on va au plus bas, avec les poissons de la mer et tout ce qui va sa route dans la mer ou tout ce qui va dans les eaux. Donc, en gros, ce psaume-là pose la question de qu'est-ce que l'homme pour que Dieu en fasse si grand cas? Eh bien, tout simplement parce que l'homme, à la fois par sa dimension verticale, appartient un peu au monde du divin, enfin au monde d'en haut, mais quand même en dessous de la lune et des étoiles, mais enfin il a quand même une tendance vers le haut, et il a une tendance vers le bas, donc une espèce de connaturalité avec les animaux. Mais alors, qu'est-ce que viennent faire les enfançons et les nourrissons? Trois minutes pour trouver. Et puis surtout, qu'est-ce que viennent faire le vengeur? Que Dieu oppose. Qu'est-ce que c'est que cette conception de la création qui est là? Alors, qui sont ses adversaires? Vous pouvez pas forcément trouver au premier coup. Parce que là, premièrement, parce que c'est allusif, et deuxièmement, c'est pas le plus répandu dans la Bible, mais c'est très répandu quand même dans la Bible, mais c'est pas le plus répandu. Alors, je vais vous mettre sur la piste. On ne sait pas loin. Il n'y a pas la mer dans le texte. Il n'y a pas l'eau. À la fin, il y a la mer, mais sur le mode d'un lieu d'habitation, la mer est au ciel, ce que la terre est à l'homme, au bœuf, etc. Vous voyez, terre, ciel, mer. Et la mer ici n'est pas dangereuse. Alors, je vous mets un peu sur la piste. Dans la Bible, pour parler de la création, il y a trois schémas ou trois possibilités de représentation de la création. Celle qui vous est la plus familière et la plus connue, c'est celle que vous avez dans Genèse 2, où Dieu crée en façonnant de l'argile, il façonne tout, les animaux, il façonne l'homme et la femme, et il insuffle à ces objets inertes son souffle, la laine de vie, le chama, c'est pas l'esprit, il insouffle la laine de vie, et les choses s'animent. Premier mode de création, Dieu fabrique. De même qu'il fabrique les astres, il fabrique le monde, il fabrique les objets animés ou inanimés, mais Dieu fabrique. Dieu même est un architecte qui construit une maison, qui met des fondations au monde. Il est là, si vous voulez, pour surveiller un peu les travaux. Donc, première représentation, l'idée de la fabrication. La deuxième, qui vous est aussi familière grâce à Genèse 1, c'est Dieu parle et la chose existe. C'est-à-dire Dieu crée par sa parole. Dieu dit et cela fut.
pourrait mettre à la place de la parole la sagesse, on pourrait mettre aussi l'esprit, hein, l'esprit de Dieu qui souffle et qui crée les choses. Vous avez ça dans certains psaumes. Dieu crée par sa parole, c'est ce que vous connaissez bien par Genèse 1. Par sa sagesse, vous connaissez peut-être moins bien, mais c'est très présent en Job. Et Dieu crée aussi par son esprit, c'est assez fréquent dans d'autres textes. Et puis il y a un troisième schéma de pensée pour parler de la création, eh bien, qui est le suivant, c'est que au commencement, vous savez que les Hébreux n'ont pas d'idée d'une création qui penserait à partir de rien. Au commencement, il y a quelque chose, mais le chaos. Mais le chaos, c'est pas simplement le désordre. Ce qui est au commencement, c'est au fond des forces maléfiques qui crée justement le chaos, et l'acte créateur consistera pour Dieu à mener un combat contre ces forces de chaos, souvent d'ailleurs représentées par des animaux mythiques comme le Léviathan, le Behemoth, ou bien Rahab, hein, des monstres marins en particulier, ou des monstres terrestres, et on peut dire que la création va émerger de ce combat, où l'ordre va émerger de ce combat que Dieu a livré aux forces maléfiques, et d'une certaine façon, la création résulte d'une mise en ordre de quelque chose qui était en désordre, et où ce qui est maléfique est repoussé à son extrême limite, mais peut toujours ressurgir pour ressemer le chaos dans la création. Retenez bien ça, parce qu'on va le retrouver dans d'autres psaumes. Bien, ici, probablement, les adversaires ici ne sont pas des adversaires de type historique, hein, c'est-à-dire ce ne sont pas des adversaires d'Israël, mais c'est des adversaires de Dieu qui, en quelque sorte, sont toujours prêts à réintervenir dans la création pour y semer le chaos. Et Dieu oppose à ça, en quelque sorte, ce qui est le plus fragile dans la création, qui est les enfantsons et les nourrissons. Vous voyez un petit peu là. Alors, je ne vous donnerai pas la réponse, vous allez la chercher. Qu'est-ce qui peut bien unifier l'ensemble de ce psaume-là pour qu'on passe ainsi, si vous voulez, d'une contemplation des cieux, même de ce qui est au-dessus des cieux, pour aller vers la terre, au fond. Le type qui a écrit ça, quelle est l'expérience dont il essaie de rendre compte, tout poème essaie de rendre compte d'une expérience qu'on a vécue, quelle peut être l'expérience vécue à travers le psaume qui est là. Je vous donnerai ça la prochaine fois en 5 minutes. Mais vous cherchez. Hein. Alors, on fera la prochaine fois encore un petit peu de théorie et on va aborder le psaume 23. Mieux connu sous le titre de « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Alors, je vous donne une fiche de travail.